Bonjour et bienvenue dans Un cœur qui va, la vie qui bat, le podcast de la Fédération française de cardiologie qui vous aide à prendre soin de votre cœur. Dans cet épisode consacré au tabac, nous allons vous aider non seulement à mieux comprendre son impact sur le cœur, mais nous vous donnerons surtout des clés pour arrêter de fumer. Pour connaître votre niveau de risque cardiovasculaire, il existe un test qui est disponible sur le site de la Fédération française de cardiologie et ce test permet d'évaluer votre risque cardiovasculaire en fonction de vos habitudes de vie et de vos antécédents médicaux. Nous avons fait remplir ce test à quelques témoins. Écoutez le résultat.
Alors, on va commencer ce test. Alors, moi, je suis un homme.
J'ai 40 ans.
Quel est votre poids? Eh bien, je fais 54 kilos. Quelle est votre taille? Je fais 1m60.
Avez-vous un parent du premier degré, père, mère, frère ou sœur, qui a eu des problèmes cardiaques? Infarctus, AVC, mort subite, avant 55 ans pour un homme ou avant 65 ans pour une femme? Alors oui, effectivement, ma mère est décédée subitement d'un arrêt cardiaque, donc je réponds oui.
Ben ouais, mon père a fait un AVC il y a quelques années. Puis il y a pas mal de gens qui ont des problèmes de cœur dans ma famille.
Mes facteurs de risque liés à mon mode de vie.
Fumez-vous? Oui, mais j'ai nettement ralenti cette consommation. Donc je ne suis plus qu'à une cigarette par jour. Donc on va dire oui.
Alors oui, je fume. Enfin, j'essaye de faire attention, de ralentir un peu. Mais c'est vrai que quand je suis en soirée, ça m'arrive de fumer plus que d'habitude.
Non, j'ai arrêté de fumer à partir du moment où j'ai commencé à prendre la pilule, parce qu'on sait que la pilule et le tabac, ça fait pas bon ménage.
Fumez-vous? Ah bah non, j'ai arrêté il y a bien une dizaine d'années.
Alors bon, donc c'est vrai que j'ai arrêté la cigarette, mais comme je fume du tabac chauffé, j'avoue que je sais pas bien si c'est bien ou pas, mais bah donc fumez-vous, bah je mets oui.
Alors j'accueille au micro le professeur Daniel Thomas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cardiologue et vous êtes spécialiste du tabac. Alors vous l'avez entendu, il y a des gens qui fument, des gens qui fument pas, des gens qui fumaient, qui fument plus. Le tabac et le cœur, ça ne fait pas bon ménage.
Effectivement, le tabac et le cœur, ça ne va pas ensemble du tout. Alors généralement, les gens font plutôt le lien entre le tabac et le cancer. Peu d'entre eux, finalement, savent d'une façon précise que ça a une incidence cardiovasculaire. Une incidence sur les infarctus du myocarde d'une part, c'est-à-dire les artères du cœur, sur les accidents vasculaires cérébraux, et puis sur les artères en général, en l'occurrence les artères de jambes, c'est l'artérite. Et donc ça, c'est à peu près les décès liés au tabac, à peu près un quart d'entre eux sont des décès cardiovasculaires.
Parce que, en fait, quand on pense fumer, on se dit les poumons sont les premiers organes touchés, mais ce n'est pas les poumons les premiers organes touchés par le tabac en fait.
Alors exactement, la précocité des événements liés au tabac, ce sont les artères et c'est le cœur en particulier. C'est-à-dire qu'on peut, quand on est fumeur, et même si on est petit fumeur, on parlera tellement sur cette notion de petit tabagiste qui n'existe pas en réalité, ça peut donner des accidents extrêmement précoces. Quand je dis extrêmement précoces, c'est des infarctus du myocarde avant 50 ans. Or, pour la plupart des gens, l'infarctus du myocarde, c'est une maladie de la personne âgée, du senior. Or, 90% des infarctus avant 50 ans, et qui ne sont pas rares du tout, concernent des fumeurs, et concernent des fumeurs pratiquement en exclusivité. Donc la précocité des événements est une notion à avoir, parce que ça veut dire aussi autre chose, c'est-à-dire qu'il faut arrêter le plus tôt possible quand on est fumeur pour éviter ces accidents précoces.
Parce que quelle est l'action du tabac spécifiquement sur notre cœur et sur nos artères? Ça fonctionne comment tout ça?
Alors sur les artères, c'est particulier parce que vous connaissez tous l'impact sur les artères du cholestérol, on en parle beaucoup, de l'hypertension artérielle, on en parle également très souvent, du diabète. Ce sont, avec le tabac, les quatre grands facteurs qui vont altérer les artères et le tabac donc participe à cette altération des artères. Mais le tabac, par rapport à ces autres facteurs, a une particularité, c'est qu'il va avoir un impact d'une part sur la coagulation du sang. C'est-à-dire que sur une petite plaque, justement, d'une artère, alors qu'elle ne serait même pas visible à la coronarographie, ça peut être le point d'appel à un caillot et donc un accident brutal, ce qui explique les accidents précoces auxquels je faisais allusion tout à l'heure.
C'est le tabac qui peut décrocher cette plaque alors qu'elle serait restée...
C'est le tabac qui, par des phénomènes d'inflammation, va entraîner une fissure, une rupture de cette plaque et est un point d'appel à la formation d'un caillot qui va... S'il progresse à partir de petits cailloux au départ qui va se former sur la plaque, va boucher l'artère brutalement et créer l'infarctus. Et puis, le deuxième mécanisme propre au tabac, c'est que ça entraîne une dysfonction de la motricité des artères. C'est-à-dire que les artères, vous savez qu'elles peuvent se dilater. Et en fonction de notre activité physique, elles vont se dilater plus ou moins. Mais le tabac fait qu'elles, au contraire, elles se spasment. Elles se réduisent de calibre. Et à chaque cigarette fumée, d'ailleurs, nos artères se réduisent de calibre. Et donc, la coagulation plus ce facteur spastique sont les éléments qui expliquent les accidents précoces liés au tabac sur le plan cardiovasculaire.
Alors là, on parle de ce qu'on appelle la population générale, mais il y a une population qui est particulièrement exposée au risque cardiovasculaire avec la consommation du tabac, ce sont les femmes. Pourquoi ?
Alors, elles sont autant exposées que les hommes. Ce qui frappe chez les femmes, si vous voulez, c'est que souvent, elles pensent qu'elles sont indemnes de risque cardiovasculaire parce qu'elles sont protégées par leurs hormones, ce qui est vrai, d'ailleurs, jusqu'à la ménopause, sauf si elles sont fumeuses. Car si elles sont fumeuses, elles annulent pratiquement le bénéfice qu'elles ont d'être une femme par rapport au risque cardiovasculaire. Ça, elles ne le savent pas en général, c'est-à-dire qu'elles pensent qu'elles peuvent fumer parce que finalement le tabac, ça va toucher surtout les hommes, sur le plan cardiaque. Et puis, il y a une chose spécifique finalement, qui concerne en particulier la France, où il y a une progression très importante des femmes fumeuses adolescentes dans les années, à la fin du siècle dernier, et qui maintenant se retrouvent à 45, 50 ans, 55 ans, toujours fumeuses, et qui à ce moment-là vont faire finalement les mêmes accidents vasculaires que les hommes. Et donc on voit une progression sur ces dernières années de plus 5% d'infarctus du myocarde tous les ans chez les femmes de 45 à 55 ans. Donc ça, c'est quelque chose qui est lié totalement, exclusivement à la progression du tabagisme chez les femmes en France.
Dans l'un de nos témoignages, on entendait une personne dire « Moi, je ne fume pas parce qu'avec la pilule, ce n'est pas bon. »
Alors, l'association tabac-pilule, c'est très important. Les femmes, alors, souvent, le savent, ça. Mais malheureusement, le réflexe, qui est le mauvais réflexe, c'est « Je ne prends pas la pilule parce que je fume. » Alors que ça devrait être l'inverse. Donc, le message, c'est clair, c'est quand il y a tabac et pilule, ce qu'il faut arrêter, c'est le tabac, ce n'est pas la pilule.
Alors, on parle de fumeurs depuis tout à l'heure. On aurait peut-être dû commencer par là. C'est quoi être fumeur ? Je fume une cigarette comme de temps en temps, comme l'un de nos témoins. Est-ce que je suis fumeur ? Je fume du tabac à chauffer. Est-ce que je suis fumeur ?
Alors, il y a plusieurs notions. D'abord, le petit fumeur ou le fumeur intermittent. C'est-à-dire, le fumeur intermittent, c'est le fumeur qui n'est pas dépendant du tabac. Hein. Généralement, la très grande majorité des fumeurs sont malheureusement avec une très forte addiction au tabac et dont ils ont du mal à sortir. Mais il y a les fumeurs intermittents. Et donc, ceux-là, ils pensent que fumer de temps en temps comme ça, c'est pas grave. Et puis, il y a les petits fumeurs, ceux qui ne sont pas dépendants, car le fumeur dépendant, lui, va fumer 10, 15 en moyenne cigarettes, voire 20, voire plus. Le petit fumeur qui fume quelques cigarettes par jour, mais tous les jours. Donc il est quand même dépendant quelque part, pense qu'il n'est pas à risque. C'est faux. C'est faux pourquoi ? Tout simplement parce que les mécanismes dont j'ai parlé tout à l'heure, la coagulation, le spasme des artères, c'est du on-off. Vous fumez et vous avez ce risque, vous arrêtez de fumer ou vous ne fumez pas, et vous ne l'avez pas spécifiquement par rapport à votre condition de non-fumeur. Donc, petit fumeur, ça n'existe pas. Il n'y a pas de petit tabagisme. D'ailleurs, c'est très simple. On interdit de fumer dans les lieux publics pour protéger les non-fumeurs. Et pourquoi on le fait ? C'est pas pour embêter les fumeurs. C'est parce qu'on sait qu'un non-fumeur exposé quotidiennement à la fumée des autres a une augmentation du risque cardiovasculaire, en particulier d'infarctus, de l'ordre de 30%. Donc, si le tabagisme passif, c'est-à-dire être non-fumeur exposé à la fumée des autres, vous donne déjà un risque, il est évident que fumer quelques cigarettes vous le donne également.
Et en un mot, le tabac à chauffer ?
Alors, le tabac à chauffer, ça, c'est le nouveau leurre de l'industrie du tabac. Quand on a découvert que le tabac pouvait donner le cancer du poumon, les industriels du tabac ont trouvé la parade, on vous met des filtres sur vos cigarettes. Leurre, ça ne sert à rien, il faut savoir, c'est que le filtre ne sert à rien et ne protège pas du cancer du poumon. Et bien maintenant, comme on sait, tout le monde sait, et les industriels le disent également, que le tabac, ce n'est pas bon pour la santé, ils disent, on va vous trouver quelque chose qui va vous permettre de rester effectivement, d'une part, avec votre besoin de tabac, et surtout avec notre profit, qui est de vous proposer le tabac chauffé. Le tabac chauffé, c'est quoi ? C'est chauffer le tabac au point de pouvoir délivrer la nicotine sans combustion. Et les industriels vous disent que s'il n'y a pas de combustion, il n'y a pas de risque. Ça, c'est faux. Car le tabac chauffé, on le sait, avec des études indépendantes, comporte un risque. Et donc, passer de la cigarette au tabac chauffé est un leurre. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas conseiller.
Passons à l'arrêt du tabac, parce qu'il y a toujours des bonnes raisons de ne pas arrêter de fumer quand on fume. Par exemple, je vais grossir, je vais être irascible. Comment on arrive à contrer toutes ces mauvaises raisons ?
Ces raisons qui sont exprimées par le fumeur doivent être entendues parce qu'elles ont une base, en fait, qui souvent est pas inexacte. Par exemple, dites « je vais grossir ». Effectivement, quand on arrête de fumer, en général, on prend quelques kilos. Pourquoi on prend quelques kilos ? Tout simplement parce que quand on est fumeur, pour le même effort que ferait un non-fumeur et un fumeur, le fumeur va consommer plus de calories. Donc quand il arrête de fumer, s'il continue à manger de la même façon, il va stocker les calories excédentaires qu'il ne va plus brûler. Donc il y a toujours une petite prise de poids. Alors elle n'est pas systématique, hein, c'est à peu près 70% des gens qui prennent du poids. Il y en a 10-15% qui en prennent beaucoup trop, et on va essayer de voir pourquoi. Et généralement, c'est qu'ils ont compensé sur autre chose, qu'ils ont compensé par l'alimentation en particulier, ou par des grignotages, etc., ou un manque d'activité physique. Et puis, il y en a même qui vont perdre du poids. Bon, donc on peut prendre du poids, il ne faut pas négliger ce problème-là, il faut le regarder en face, mais il ne faut pas que ce soit un obstacle, même si souvent, malheureusement, c'est un frein pour un certain nombre de fumeurs, c'est même parfois des causes de rechute, quand les quelques kilos, et en particulier chez les femmes, ne sont pas acceptés.
Il y a l'irascibilité, il y a le fait aussi, par exemple, de déstresser, etc. Mais tout ça, en fait, vous dites que ça va durer un temps et puis que les choses vont se stabiliser, que globalement, on ira mieux après avoir arrêté la cigarette qu'avant.
Alors, on a longtemps pensé que le fumeur avait besoin, pour gérer son stress, de fumer. Et même les psychiatres nous disaient « ne touchez pas mon fumeur ». Parce qu'il est bien comme ça. Bon. Et puis on s'est rendu compte, et les études l'ont bien montré, c'est que le tabac entretient le stress, entretient l'anxiété et la dépression. Et ça, c'est parfaitement démontré. Et alors, c'est pareil, il ne faut pas le négliger. C'est-à-dire que quand un fumeur arrête de fumer et qu'il est très anxieux ou voire déprimé, il faut en tenir compte, il faut l'accompagner par rapport à ça. Et pendant quelques mois, il y a peut-être besoin d'une aide spécifique par rapport à ça. Mais dans la majorité des cas, et ça c'est parfaitement démontré dans les études, il y a une amélioration de l'anxiété, de la dépression à terme, au bout de quelques mois. Et ça, il faut que les fumeurs le sachent, parce que souvent c'est aussi un obstacle, en disant c'est ma béquille et je vais pas être bien. Et d'ailleurs, j'en ai déjà fait l'expérience, et parfois quand ils ont fait une expérience très courte, ils ont une impression finalement qu'ils s'aggravaient sur ce plan-là, alors qu'en fait, à terme, ça va les améliorer.
Vous avez parlé d'accompagnement, ça c'est quelque chose d'extrêmement important parce que l'addiction qui est induite par le tabac, on ne s'en débarrasse pas comme ça.
Effectivement, souvent les fumeurs ont une sous-estimation du potentiel addictif du tabac. Il faut savoir que le tabac, pour une très grande majorité de fumeurs, pas tous certes, mais une très grande majorité d'entre eux, ont une addiction au tabac qui est plus forte que celle liée aux substances illicites comme l'héroïne, la cocaïne, dont ils pensent qu'en fait, elles sont plus addictives parce qu'elles sont interdites, illicites, etc. Alors que le tabac, on en vend partout, donc ça ne peut pas être aussi addictif. Bien si. Hein. Et il y a des études qui montrent très bien que ça peut être beaucoup plus addictif. Et ça explique la difficulté de sortir du tabac et de quitter le tabac. Or, le fumeur, souvent, pense que c'est lui qui est en cause. Et donc, il se culpabilise. Il dit, bah, je suis pas assez fort, je vais réessayer, c'est ma faute. Il se culpabilise, et la culpabilité, il n'y a rien de pire pour sortir du tabac. Et donc, ce qu'il faut, c'est avoir confiance, avoir des éléments de motivation par rapport aux bénéfices qu'on va obtenir, et puis ensuite, savoir demander de l'aide. Et il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Si vous étiez dépendant de la cocaïne ou de l'héroïne, je veux dire que ça ne viendrait pas l'idée de quelqu'un de se dire, il y a on va comme ça, moi je vais m'en sortir tout seul. Hein. Donc, demander de l'aide, c'est fondamental et il faut savoir le faire et oser le faire. Et il y a vraiment des outils pour aider les fumeurs à sortir du tabac.
Alors, si vous faites le test sur le site de la Fédération française de cardiologie pour connaître votre risque cardiovasculaire et que vous mettez « oui, je fume », vous allez avoir un certain risque. Et en fait, si vous mettez « non, je ne fume pas », c'est-à-dire que vous arrêtez de fumer, vous mentez pas, vous arrêtez de fumer, eh bien, d'un coup, le risque va baisser. Parce qu'en fait, c'est ce qui est formidable avec l'arrêt de la cigarette, c'est que on a des effets très rapides.
Alors effectivement, les mécanismes dont je vous ai parlé tout à l'heure sur la coagulation et sur la motricité des artères et donc le risque de spasme des artères, c'est un mécanisme on-off. C'est comme la bouton électrique. Hein. Vous fumez, vous êtes à risque. Vous arrêtez de fumer, ces mécanismes spécifiques s'annulent très rapidement. La coagulation, parce que dépend des plaquettes, ces petits éléments qu'on a dans le sang qui vont être à l'origine de la formation des caillots, et se renouvellent tous les 15 jours. Donc si vous n'êtes plus exposé au tabac, au bout de 15 jours, elles sont neuves. Vos plaquettes sont neuves. Si vos plaquettes sont neuves, 15
jours, c'est super rapide en fait.
15 jours, vous êtes sorti finalement de l'induction de coagulation liée spécifiquement au tabac. Donc c'est-à-dire que ce mécanisme de thrombose, comme on l'appelle dans le jargon médical, c'est-à-dire de coagulation, s'annule très rapidement. Et le mécanisme au niveau des artères également s'améliore très rapidement. Donc finalement, le bénéfice le plus rapide que l'on obtient à l'arrêt du tabac, c'est un bénéfice cardiovasculaire.
Si on résume, 1, on ne commence pas, 2, on s'arrête très tôt, 3, même si on est très âgé,
Il faut encore arrêter parce qu'il y a un bénéfice à le faire et il y a des études qui montrent qu'au-delà de 60, 70 ans, voire 80 ans, vous avez encore un bénéfice à arrêter de fumer. Et en l'occurrence, surtout un bénéfice cardiovasculaire. Car si vous avez fumé toute votre vie jusqu'à 70 ans, je veux dire, peut-être que le cancer du poumon va vous rattraper. Mais par contre, vous allez avoir un bénéfice immédiat dont on vient de parler par rapport au risque d'accident cardiovasculaire et qui va se manifester immédiatement et qui vous protège. Et on sait que parmi les facteurs de risque de récidive d'infarctus chez quelqu'un qui était fumeur et qui a fait un infarctus, le premier risque de récidive, c'est le tabac persistant. Donc arrêter de fumer, c'est la meilleure mesure de prévention dite secondaire, c'est-à-dire après un événement, que l'on peut prendre chez quelqu'un qui était fumeur au moment de son infarctus, c'est d'arrêter de fumer. Bien sûr, il va falloir prendre des médicaments, il va falloir traiter le cholestérol, etc. Tout le reste, oui, mais ne pas oublier le tabac, car si on oublie le tabac, je veux dire qu'on fait fausse route, et c'est là qu'on va vous retrouver avec la récidive.
Alors ce qu'on peut faire, c'est inciter nos auditeurs à aller faire le test sur le site de la Fédération Française de Cardiologie. Merci beaucoup, professeur Thomas, d'être venu passer ces quelques instants avec nous et de nous avoir éclairé sur les risques du tabac.
Merci.
Vous pouvez vous aussi faire le test sur le site de la Fédération Française de Cardiologie. Et puis une fois que vous avez votre résultat, sans avoir à tout refaire, vous changez seulement un critère et vous voyez, si vous faites un changement dans votre vie, quel bénéfice ça peut avoir sur la santé de votre cœur. Vous pouvez également écouter ou réécouter l'ensemble des podcasts Un cœur qui va, la vie qui bat sur le site de la Fédération Française de Cardiologie, fedecardio.org ou sur toutes les applis de podcasts. À bientôt.
Un cœur qui va, la vie qui bat. Une série de podcasts de la Fédération française de cardiologie.